Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'émission d'information locale qui va commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, une école municipale de cuisine qui s'est lancée à Rennes. Interview pour parler mixité sociale avec le syndicat SNES FSU en Ille-et-Vilaine. Il y aura de la musique dans une nouveauté, un reportage long format, c'est le deuxième épisode de la série Habiter et vieillir à Rennes, cette fois sur le choix du maintien à domicile. L'épisode 3 de la rencontre avec Clément Rivière, sociologue sur la place des enfants en ville. Et puis une recommandation, il s'agit d'une rencontre pour réfléchir sur l'histoire. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Allez, on commence avec l'info du jour. Je me suis souvent fait la réflexion qu'il était bien dommage qu'on ne nous enseigne pas à l'école les bases de la cuisine pour être en capacité, avant de quitter le nid familial, quel que soit notre genre ou notre milieu social, de savoir cuire des légumes vapeur, faire une pâte brisée ou encore une sauce béchamel. Et voilà, la ville de Rennes répond en quelque sorte à un de mes souhaits avec la création d'une école municipale de cuisine. Ça fait en fait partie des actions du plan alimentaire durable lancé en 2016. Cette école, elle a ouvert entre les murs du centre de loisirs des Gailleuls à Rennes et proposera des ateliers pour les enfants des centres de loisirs et des écoles. Les enfants cuisineront des produits bruts et puis se familiariseront avec le geste culinaire et puis le matériel de cuisine. Autre mission, former au bien manger les 90 agents qui travaillent en cuisine, en école mais aussi auprès des personnes âgées, mais former aussi des personnels qui interviennent sur le temps du repas. Ça concerne donc des animateurs, des agents d'entretien ou encore des ASEM, les agents spécialisés des écoles maternelles, avec un temps qui sera laissé à l'expérimentation de nouvelles recettes pour les cuisiniers. L'approvisionnement de cette école municipale de cuisine sera lui assuré en majorité par le groupement de producteurs Manger Bio 35 et puis la coopérative Terre de Source, développée en partenariat avec Rennes Métropole, et à la carte donc des produits idéalement bio et locaux, plus végétaux aussi, puisque le plan alimentaire durable prévoit d'atteindre 50% de produits bio d'ici 2025. On rappelle que 14 000 repas sont servis chaque jour dans les restaurants collectifs rennais, alors vous imaginez l'impact d'un tel changement. Après cette info du jour, c'est l'heure d'une interview. Philippe Melaine, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes secrétaire départemental du syndicat SNES FSU, donc pour l'Ille-et-Vilaine, et également enseignant dans un lycée rennais. Ensemble, on va parler carte scolaire et mixité sociale. C'est en fait la deuxième rencontre sur le sujet dans cette émission, puisque la semaine dernière, j'ai reçu la vice-présidente à l'éducation du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine pour parler de la situation dans les collèges. C'est là où ça pose le plus problème. On redit en un mot le SNES FSU en Ille-et-Vilaine, quelles sont les forces vives.
Le SNES FSU, c'est le premier syndicat des enseignants du second degré, collège et lycée. Et ça représente à peu près 1000 adhérents.
On le redit sur ce sujet-là de la carte scolaire, comme c'est un peu complexe, c'est donc un outil qui, depuis les années 60, permet officiellement d'organiser l'offre éducative sur le territoire et de définir l'aire de recrutement de chaque établissement. La complexité, c'est que chaque niveau éducatif dépend d'une institution différente. L'élémentaire dépend de la ville, le collège du département et le lycée de la région, et le tout chapeauté évidemment pour les politiques éducatives par l'éducation nationale. Ça, c'est dit. Si je vous reçois, c'est parce qu'il y a un mois à peu près, votre syndicat s'est exprimé sur le sujet de la mixité sociale. Titre du communiqué, la messe est dite. On comprend que dans votre analyse, il va être question du rôle du secteur privé. On va y revenir. L'analyse concerne surtout les collèges. On explique pourquoi. C'est là que ce phénomène est le plus marqué de ségrégation sociale.
Oui, la ségrégation, alors, elle est d'abord territoriale. Hein. C'est une politique de la ville. On connaît... C'est pas les mêmes personnes qui habitent le Tabor ou qui habitent le Blonin. Mais effectivement, ce qu'on observe de ce qu'on peut appeler une fuite du public vers le privé, c'est-à-dire après le primaire, s'avère très très fort au collège. Et à contrario, au lycée, on a un retour des familles qui étaient allées vers le privé et qui reviennent vers le public.
Pour faire simple, il existe un IPS, un indice de position sociale. Il est rendu public depuis très récemment, en fait, depuis 2022, rendu public par l'Éducation nationale suite un peu à l'alerte. Hein, on pourrait presque le qualifier de lanceur d'alerte, celui qui a demandé à ce que ces chiffres soient rendus publics. Et cet indicateur, il s'appuie sur le profil du ou des parents. En gros, plus il est élevé, plus l'enfant vit dans un milieu socialement favorisé. Et le résultat pour 2022, pour faire simple, c'est que le privé est plutôt associé à des élèves de milieux favorisés et le public à des élèves de classe populaire. C'est peut-être pas une grande surprise, mais là, les chiffres rendent quand même le constat assez flagrant, quoi.
Ouais, le constat est flagrant. Effectivement, ça n'est pas une surprise, on le savait. Hein. Avant même la publication des IPS, parce qu'on avait d'autres outils hein, qui étaient à disposition de l'INSEE, des départements, etc. On pouvait lire ça. Un exemple, sur Rennes, par exemple, on est sur les collèges privés à 42% d'élèves qu'on met dans la catégorie très favorisée, alors qu'on est à 27% dans les collèges publics.
Je peux compléter en donnant d'autres chiffres à l'échelle bretonne cette fois. Si on prend les 5% de collèges avec un IPS, l'IPS le plus bas, eh bien 70% sont publics de ces établissements. Et si on prend les établissements avec les 5% avec l'IPS le plus haut, 80% là sont privés. Il faut dire que ce constat de non-mixité, avec un phénomène donc de ségrégation sociale, il est particulièrement marqué dans les grandes villes. Quand on est dans le milieu rural, il y a quand même une mixité sociale qui est plus grande. Je l'ai expérimenté, moi, à mon échelle, quand j'étais au collège, avec des souvenirs du côté de Vitré. Là, le constat, il est marqué quand on est à Rennes, quand on est à Brest, quand on est aussi à Lorient, je crois. Donc ça, c'est important de le redire.
Oui, mais oui, bien sûr, c'est propre aux grandes villes, parce que une question de très pratique, quand vous êtes en milieu rural, qui n'a qu'un seul collège, vous prenez le collège de secteur. Alors que là, changer de collège... C'est quoi? C'est changer d'une station de métro, c'est ajouter 5 minutes de transport, donc c'est très, très facile.
Le département d'Ille-et-Vilaine, il se dit bien conscient de cette situation. Il est en train de refondre sa carte scolaire pour 2024 avec une période là de concertation avec notamment les parents d'élèves. Ils veulent les inclure dans ces réflexions. La carte scolaire, elle a déjà été modifiée. Vous vous dites que ça va sans doute pas révolutionner les choses?
Comment vous expliquer? Bien sûr qu'on souhaite travailler là-dessus et améliorer la mixité scolaire. Donc notamment, on avait mené ce travail de concert avec le précédent conseil départemental. Et il y avait eu un projet, hein, qui n'était pas le nôtre, hein, qui était de faire un collège multisecteur, c'est-à-dire que les élèves de Villejean pouvaient aller à Zola ou à Anne de B et vice-versa.
Et ça n'a marché que dans un sens.
On a réfléchi à d'autres éléments. Par exemple, si je prends les collèges publics, hein, je prends la Bankney qui est au Blône. La Bankney, c'est 5% de population très favorisée. Donc, c'est rien du tout. Et pas très loin de la Bankney, nous avons les Ormeaux publics avec 58% d'élèves favorisés. Donc là, on voit la répartition territoriale de la ville. Eh bien, on pourrait, par exemple... se dire, tiens, on va mettre du chinois, on va mettre des options à la Bankney pour faire venir... voilà. Eh bien, si on enlève le chinois aux Ormeaux et qu'on le met à la Bankney, la population qui prenait chinois aux Ormeaux va aller dans le privé, voilà, qu'entre les deux, et récupère comme ça du public, quoi.
Concrètement, si on bouge juste au niveau de la carte scolaire, il y aura toujours la possibilité pour des parents qui ne sont pas satisfaits par l'attribution du collège, en fait, d'aller glisser vers le privé.
Vers le privé, ouais.
On peut peut-être rester dans ce quartier, puisque vous le connaissez, sur le sud de Rennes, vous êtes enseignant dans le quartier du Blône. Alors vous êtes enseignant en lycée, ça permet de dire que ces constats là, de ségrégation sociale, ils sont moins marqués. On peut parler de l'établissement où vous travaillez, de comment ça marche en termes de mixité sociale?
Oui, donc c'est le lycée des Cartes de Rennes. Comment ça marche en termes de mixité? Eh bien, le secteur de recrutement est à la fois sur les villes au sud de Rennes, Verne, jusqu'à Janzé. Voilà, avec des CSP+, hein, plutôt, sauf quand on va vers la campagne. Et à la fois du quartier du Blône-Poterie, c'est-à-dire des élèves issus du collège des Hautes-Zournes, du collège de la Bankney, des Chalets et du Landry. Voilà, donc ça fait, en tout cas, j'ai pas de chiffres. Je sais que c'est le lycée public, lycée général et technologique, où la mixité est la plus importante ou meilleure, je veux dire. Hein, c'est une réussite. Et bien, ça fonctionne très bien.
Et vous y êtes enseignant en quoi, par curiosité?
En SVT.
Vous qui êtes enseignant donc dans un lycée rennais, sur ce que permet la mixité sociale, ça a quels effets? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'effets concrets, mais pourquoi c'est un sujet important, finalement, de parler de cette mixité sociale?
Si vous voulez bien, je vais le prendre dans l'autre sens. C'est important aussi pour les CSP favorisés, c'est-à-dire vivre ensemble, on nous rebat les oreilles avec ça. Il y a un vrai souci, quoi, pour faire société, pour éduquer les citoyens entre eux. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis globalement, les expériences qu'on a lorsqu'on fait plus de mixité, c'est-à-dire des niveaux scolaires, sociaux, plus mélangés, eh bien la réussite scolaire est meilleure.
Et donc, c'est difficile de compter sur le bon vouloir des parents pour ces questions-là, quoi.
C'est difficile, c'est voire même impossible, je pense. Et sans jeter la pierre, honnêtement, vous avez un enfant qui dépend de la carte REP+, il va là-dedans, ça se passe pas bien. Ça peut se passer très mal aussi ailleurs, hein, dans des collèges favorisés. Hein. En tant que parent, vous allez le sortir de là. Voilà, vous avez, et pour changer de collège, ben, y a que le privé qui va faire. Donc on peut comprendre la démarche. Ce qui est dommage, c'est que les parents n'essayent même pas. C'est-à-dire qu'ils fuient avant sur une réputation qui n'est pas vraie. Moi, si je prends le collège de Haute-Zourme qui aurait plus, oui, il y a des élèves en difficulté. Mais il y a une équipe, justement, qui, derrière, fait tout ce qu'elle peut et ça fait du bon boulot. Ouais.
Ce qui vous questionne, là on arrive à cette question du secteur privé, donc ce qui vous questionne, voire peut-être vous irrite un peu au SNES-FSU, c'est que le privé il est subventionné par les collectivités locales sur les collèges en Ille-et-Vilaine, donc ce sont 47 collèges privés qui sont aidés pour leurs dépenses de fonctionnement mais aussi d'investissement. Les auditeurs le savent peut-être pas en fait que le privé ne fonctionne pas sans subvention, il est subventionné à 75% par des aides publiques. Vous pensez que c'est mal connu, ça ?
Je pense que c'est mal connu, notamment l'idée que, obligatoirement, les enseignants et enseignantes du privé sont payés par l'État. Une école ne pourrait pas avoir les moyens, sauf c'est quelques écoles rares qui existent, privées et payantes. Donc le privé ne pourrait pas avoir les moyens de financer les salaires des enseignants. Donc c'est un des rares systèmes au monde où l'État finance sa propre concurrence.
L'État et puis le département, il y a en fait une partie un peu socle qui est obligatoire et une partie qui est laissée optionnelle au département pour financer à la fois des actions culturelles, éducatives aussi, de l'investissement pour les bâtiments. Ça veut dire que d'après vous, ça doit être remis en cause à l'échelle nationale ?
Oui, il y a un vrai souci qui ne peut que se régler à l'échelle nationale. Alors à chaque fois qu'on en parle, on nous dit on ne va pas raviver la guerre scolaire, etc. Mais pourquoi ? Ce n'est pas question de guerre, c'est question de savoir comment est-ce qu'on veut imposer de la mixité. Imposer, hein, il faut le faire de manière volontaire. Ça se fait dans d'autres régions. Il y a eu un travail à Paris, il y a eu un travail à Toulouse. Et ça a été possible parce qu'il n'y avait quasiment pas de privé. Et là, on a pu faire quelque chose. Donc, tant qu'on garde le statu quo, notamment en Bretagne avec l'enseignement privé, on ne peut pas jouer, on ne peut pas améliorer la mixité.
Mais alors, si on supprime les subventions, très clairement, le secteur privé ne tient pas.
Voilà.
C'est ça la difficulté. On imagine que ça peut soulever une colère immense des défenseurs de l'école privée liée à l'histoire de la région.
Ouais, mais alors, si on parlait un petit peu du fond, moi, quand j'étais collégien, il y avait une aumônerie, par exemple. C'est-à-dire que j'étais en collège public avec un enseignement religieux. Donc il ne s'agit pas de détruire la religion, il s'agit d'offrir la possibilité à tout le monde de suivre ça. Donc on pourrait très bien se poser tous calmement en disant, eh bien on offre l'enseignement religieux, et de plusieurs religions d'ailleurs, hein, il n'y a pas que la religion catholique en France, au service public, et puis on fond les deux systèmes, public et privé ensemble, et on voit tout, c'est faisable.
Hein. Autre requête de votre part, en plus de remettre à plat là, ces histoires de financement, c'est que les collèges avec des indices de position sociale faibles bénéficient de moyens renforcés parce qu'en fait, ils ne sont pas tous classés en réseau d'éducation prioritaire. Comment est-ce qu'on l'explique, ça ? C'est qu'ils ne sont pas bien placés sur la carte.
Il y a une carte de réseau d'éducation prioritaire qui s'est dessinée en 2018, je crois. Et donc on a quelques collèges de REP et puis un collège de REP+, le seul hein, dans l'académie en Bretagne, qui est le collège des Hautes-Zourmes. Et là il y a une volonté de mise à bas, de destruction de l'éducation prioritaire. C'est censé maintenant plus être géré comme ça, mais des financements qui iraient sur des projets, quoi. Voilà, donc tel ou tel projet serait financé, des heures en plus, et là le privé rentrerait dedans. Avec une enveloppe qui est toujours la même. Donc on va partager l'enveloppe qu'il y avait dédiée à l'éducation prioritaire et la diluer entre collège public et collège privé.
Ça, c'est en projet ?
Ah oui, c'est un projet national. Ça a été expérimenté dans 3 académies cette année. On n'a pas le bilan. Marseille, Lille et je ne sais où. Alors avec la spécificité, c'est que l'académie de Rennes fait partie des académies les plus favorisées où il y a moins d'éducation prioritaire. Globalement, Mais quand on prend sur des points aigus par quartier, par ville, la question est la même qu'à Paris ou en Seine-Saint-Denis. Hein.
On peut redire ce que le fait d'être classé en réseau d'éducation prioritaire permet aujourd'hui, c'est plus d'enseignants, plus de... Comment sont répartis les moyens supplémentaires alloués ?
Ouais, alors c'est ce qui est intéressant pour un collège, c'est d'être classé en REP+. Le REP tout seul ne donne pas grand-chose, mais le REP+ permet d'accéder à une revendication qu'on a, même s'il n'est pas entièrement satisfaite, c'est-à-dire 24 élèves maximum par classe. Nous, on souhaiterait que ce soit 16 hein, en éducation prioritaire. Une reconnaissance salariale, c'est-à-dire qui permet de stabiliser les équipes. Voilà, et puis quelques subventions sur des projets.
Et donc le constat que vous faites, c'est que sur l'Académie de Rennes, qui couvre tout le territoire de la Bretagne, les trois collèges publics les plus défavorisés, mais ils ne sont pas classés en REP+, et ne bénéficient donc pas des moyens dont ils auraient besoin.
Mais effectivement, on a un souci avec ce classement-là, notamment je pense que le collège Rosa Parks à Vigean est dans une situation où l'IPS est très faible, où les problèmes on les connaît, ou qui a récemment fusionné sur un seul site, et ça marche pas très bien, les équipes se démènent, hein, voilà, les cours ont lieu bien sûr, mais il aurait besoin d'un soutien. En fait, c'est le nombre de collèges REP plus qu'il aurait fallu augmenter, notamment en Bretagne. Mais avec cette réforme, eh bien, on va fonctionner autrement, donc en espérant que Vigean puisse bénéficier de moyens supplémentaires, ça serait bien.
Et alors là, un mois après la publication de votre communiqué, dont le titre était « La messe est dite », vous continuez à mener ce combat, alors on voit que le ministre, dans le discours, disait faire de cet objectif un enjeu prioritaire. Finalement, les promesses ne sont pas tenues, vous êtes assez déçu de l'action de ce ministre-là.
Oui, alors déçu, d'autant plus que c'était quand même quelque chose qu'il avait mis fortement en avant, donc il a complètement abandonné cette idée-là, donc il n'y a plus aucune mesure contraignante pour le privé, ce qui fait qu'ils ne vont rien faire. Nous, notre travail, c'est un travail de fond, hein. Dans nos mandats, c'est on ne veut pas d'école privée, on veut du public partout pour tout le monde. Voilà, donc on va continuer à se battre, notamment travailler avec le conseil départemental, qui est assez ouvert sur la question, hein, voir ce qu'on peut faire ensemble. Sans avoir trop d'illusions, tant qu'on ne peut pas contraindre le privé.
Je vous représente Philippe Melaine, vous êtes secrétaire départemental du syndicat SNES FSU pour l'Ille-et-Vilaine, également enseignant dans un établissement rennais. Ensemble, on a donc pu parler carte scolaire et mixité sociale. Pour plus d'infos, pour retrouver votre communiqué et puis tout un tas de cartes avec des indicateurs des positions sociales dans le département et aussi par ville et dans la région, il y a le site internet rennes.snes.edu. Merci beaucoup.
Merci.
Das Leben ist zu leben, hast du mir noch gesagt. Sei mutig, laut und feite, sei nicht immer stark. Augen auf und durch, hast du mir noch geraten. Sei wachsam, spiel und trau dich, sei, was ich nicht war. Die anderen sind gegangen, die letzte an der Bar. Heimlich, still und leise, erzähl, wie es einst war. Ein Schwank aus deinem Leben, ein letzter Abschiedsgruß. Was gäb ich für ein Leben, in dem du nicht gehen musst. Es sind die letzten Meter, paar Schritte noch zu gehen. Das Meer bebt still und leise, bleib bitte stehen. Die Kerzen sind verbrannt, der letzte Kippenrauch. Weinglas in der Hand, ein letzter Rausch. Erzähl von deiner Jugend. Bis morgens sind wir wach, einmal noch verloren, tief in die Nacht. Im Meer mit dir verkriechen, frische Hände riechen, mein Alltagsheld, mein Heimatgeber, für mich Fernwehstreber. Meine Steuerung an jeder Wegkreuzung. Meter paar Schritte noch zu gehen. Das Meer bebt still und leise, bleib bitte stehen. Es sind die letzten Meter, die musst du jetzt noch gehen. Die See zieht ihre Kreise, bleib bitte stehen.
Bon, je parle pas allemand, je me lance. Die Letzten Meter par Coco Aikura. C'est une nouveauté musicale sélectionnée par notre programmateur Yann et à retrouver sur l'album A Place Called Home qui est sorti le 12 mai chez Chromatics et Musigami. Alors Coco Aikura, c'est la voix d'un groupe indie pop franco-allemand qui s'appelle Yalta Club et la voilà donc en solo et avec un premier album qui comprend 11 titres. Vous écoutez Canal B sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur canalb.fr. On passe au reportage du jour. Un reportage long format réalisé par Elvire Moreau, volontaire en service civique. Elle vient de finir son volontariat et nous laisse découvrir sa série. 3 épisodes sur le sujet habiter et vieillir à Rennes. Dans ce deuxième épisode, focus sur le maintien à domicile quand on vieillit chez soi, en compagnie d'une aide à domicile en pleine tournée et puis du Centre communal d'action sociale de Rennes. Bonne écoute.
C'est pas bien drôle d'être seule, mais à côté de ça, j'aime encore mieux être seule que d'être passée dans une maison de retraite. Autant rester chez soi. En communauté comme ça, en dortoir, ça ne va pas.
Enfin, il vaut mieux être ici avec d'autres que d'être toute seule.
Hein. Oh embêter. Oui, si vous voulez une chauffeur toute seule.
Pas ma foi.
Elles sont là, il faut s'en occuper jusqu'à la fin. Ouais. Tant qu'il y a de la vie, il faut s'en occuper.
Dans le dernier épisode de notre série Habiter et vieillir à Rennes, nous avons découvert deux façons d'habiter avec d'autres personnes, le logement intergénérationnel et la résidence autonomie. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, nous allons aborder le maintien à domicile. En France, la politique de vieillissement de la population tend de plus en plus à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées dans ce qui est appelé le virage domiciliaire. En parallèle, de plus en plus de personnes âgées expriment le souhait de vieillir chez elles. Pour découvrir le maintien à domicile, j'ai suivi Odile Garneau, aide à domicile au CCAS de Rennes, lors de sa tournée du matin à la rencontre des personnes qu'elle accompagne au quotidien.
Originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, je suis venu sur Rennes il y a 21 ans. J'étais venu au départ pour les vacances, 3 mois. On m'a proposé du travail, donc je suis resté. J'ai commencé ici à Vigeant Université pour le parking du métro. Et après, je suis reparti comme marin-pêcheur, mon métier de départ, quoi. Et puis, en 2011, le dos était trop usé pour continuer ce travail-là. Voilà. Là, du jour au lendemain, je me suis retrouvé, comment on appelle ça, le MBPH ?
Oui.
Oui, c'est un MBPH. C'était un grand changement dans ma vie, pour moi surtout. Les fonds ne sont plus les mêmes non plus. On fait avec, on n'a pas le choix de toute façon. Je suis rentré ici dans l'appart en 2008. Comme je suis venu ici, c'était un petit quartier tranquille. Je connaissais déjà plus ou moins le quartier. Je venais de divorcer de toute façon, donc je n'avais pas trop le choix non plus. Et puis, c'est tellement calme que même les oiseaux, on ne les entend pas. Ils veulent même les oiseaux ne font pas de bruit.
À quoi ça ressemble vos journées pour l'instant en maintien à domicile comme ça?
Ben, je reste à la maison, je joue sur l'ordinateur ou je regarde la télévision, les reportages, et puis je fais que ça, quoi. Les amis qui passent éventuellement, j'ai les voisins, ils viennent 10 fois dans la journée, 10 fois dans la journée, ils vont me demander si je vais bien.
Ça fait pas longtemps qu'il est là.
Ouais, puis avant j'étais 10 fois, 20 fois dans la journée. Oh, tonton, ça va? Oui, ça va bien? Oui, bien, bien, ou bien, bien, bien? Oh, tu me fais chier, là. Comme je ne sors pas, donc tous mes muscles se tétanisent. Et puis, les opérations du dos n'ont pas vraiment marché non plus. Alors, moins d'efforts que je fais, je commence à piquer du nez parce que les muscles du dos sont trop faibles. Donc, j'ai tendance à partir un petit peu en avant. Quoi. Et puis, c'est tellement douloureux que j'ai même pas le courage de sortir. Quoi. C'est surtout ça. Donc, je me suis enfermé dans une bulle. Et puis, percer la bulle maintenant, c'est très dur. Quoi.
Est-ce que pour vous, c'était quand même important de pouvoir rester dans votre logement, garder votre
indépendance ? Oui, parce que je ne me verrais pas partir dans une maison de retraite ou je sais pas, non. Avec mon caractère, non, ça ne marchera pas. Normalement, du côté de mon père, basque du côté de ma mère, le signe du cancer en plus, qui n'arrange pas trop les choses. Donc je m'en porte très vite, quoi.
Et du coup, vous avez été marin pêcheur pendant combien de temps?
J'ai fait ça à peu près pendant une dizaine d'années, 10-15 ans.
C'était quelque chose qui vous plaisait comme métier?
Oui. Ah oui, si j'arrive au camion de repartir en pêche, je repartirai. Hein. Quand j'ai 62 ans, ça ne me dérangerait pas. Malheureusement, c'est le dos qui supporte plus, quoi. Mais le métier de marin pêcheur, c'est un métier qui s'en serait dur aussi, quoi. Comme on dit, c'est marche ou crève. Hein. S'il te manque un doigt, c'est pas grave, tu continues à travailler, bonhomme. C'est pas des vacances.
Vous comptez rester dans ce logement-là encore
en... Le plus longtemps possible. Oui. Je suis pas fait pas dans une maison de retraite. Ouais. Non. J'aime trop ma liberté. Ouais. Ouais.
On intervient en fait deux fois par semaine.
D'accord. Deux fois une heure, ouais, pour l'instant. Voilà. Nous, on se connaît déjà depuis assez longtemps. Je suis attitrée en fait. Et c'est vrai que voilà, on a pris des habitudes, le petit café, l'entretien, les courses. On essaie de maintenir à peu près le logement. Et puis, quelque part, je pense que ça lui ramène un petit réconfort, je pense, de voir un peu de monde.
Oui.
Et puis, c'est l'avantage du métier quand on a, qu'on a nos attitrés. On est déjà beaucoup plus à l'aise, on sait ce qu'on a à faire, on peut intervenir pour faire des papiers administratifs. Quelque part, on rentre dans leur vie un petit peu intime aussi, parce que voilà, notre métier, il est varié en fait, hein, dans une journée. Hein, on a des usages complètement différents. Souvent, les matins, c'est le petit déjeuner, la toilette. Deuxième heure, c'est souvent en course ou entretien, petit entretien. Troisième heure, en général, c'est préparer les repas. Et puis l'après-midi, c'est varié. Hein. Aller les promener s'ils veulent sortir, aller faire des courses avec eux ou faire des courses toute seule. Et le soir, en fait, c'est la préparation des repas et l'aide au coucher aussi. Alors maintenant, on a une nouvelle organisation qui n'est pas forcément super bien parce que ça fait plein de changements pour les usagers aussi. Parce qu'on est deux matins, deux jours et deux matins du soir, donc ça veut dire que le soir, on finit à 20h. On essaye d'avoir le plus possible d'attitrés pour qu'on puisse avancer aussi avec eux, en fait. Hein, mais voilà, quoi.
Oui, il faut aussi que les personnes s'entendent, quoi. Tout ça.
Oui, oui, c'est important d'avoir une relation usager et aide à domicile.
Jusqu'à maintenant, les personnes qui sont venues quand Odile était en vacances, je n'ai pas bien me plaindre non plus. Très sympa, très gentil. Et puis comme moi, je ne suis pas trop embêtant du côté ménage, je fais en sorte que ce soit à peu près correct, quoi. Je ne profite pas non plus d'abuser de la personne qui est là pour pas les prendre comme des esclaves non plus, quoi.
Non, c'est important. C'est très important parce qu'en fait, on ne met pas forcément en image notre métier, en fait. Mmh. On commence à en parler parce que maintenant, on voit que les gens restent de plus en plus à leur domicile et du coup, ils ont besoin d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie, parce qu'en fait, c'est la même chose. Mais c'est vrai que c'est important de savoir ce que l'aide à domicile peut faire, ne pas faire aussi, parce que c'est important. On a été un petit peu dans les oubliettes. Hein. Moi, je suis là depuis 20 ans, et c'est vrai que j'ai vu en 20 ans l'évolution du travail. Il y a eu des hauts et des bas, en fait, hein, parce que le métier évolue, et nous aussi, avec les formations, enfin voilà. Et...
Il y a de plus en plus de personnes qui demandent le maintien à domicile aussi.
Oui, parce qu'en fait, déjà, ils n'ont pas forcément les moyens de se payer une aide, enfin une maison de retraite, parce que ça coûte très cher. On les stimule pour qu'ils restent le plus possible à leur maison, enfin à leur domicile, parce que je trouve que c'est important. Même si maintenant, on met quand même des aides à côté. Il y a les infirmiers, il y a les soignants, il y a les kinés. Enfin, tout le monde se déplace maintenant, donc c'est beaucoup plus facile. En 20 ans, ça a beaucoup évolué, ça. Avant, c'est vrai, quand les personnes ne pouvaient plus... sortir ni rien faire du tout, donc on les inscrivait à la maison de retraite et puis on savait que dès qu'il y avait une place, c'était pour eux, quoi. Et faut se mettre aussi à la place du demandeur, en fait, à l'usager, parce que on sait que la maison de retraite, c'est la dernière demeure, hein, donc la maison aussi, mais c'est vrai que quand ils ont encore toutes leurs petites habitudes chez eux, pour recevoir, c'est beaucoup plus facile, moi, je trouve, quand même.
Oui, quand on voit le prix des chambres dans les maisons de retraite, hein, c'est abominable, quoi. Ouais. Les gens qui ont économisé toute leur vie, toutes leurs économies partent dans les maisons de retraite, quoi.
Voilà. Et puis bon, tout le monde n'est pas propriétaire, donc ils ne peuvent pas vendre leurs biens pour subvenir à leurs besoins. Donc je trouve que c'est bien qu'on puisse mettre en place tout ce qui est médical. En fait. Vous mangerez quoi avec comme légumes pour demain ?
Eh ben, je mangerai des pâtes.
Donc on les cuira demain matin ?
Oui.
Hein ?
Oui, demain matin.
Il y a beaucoup de personnes qui viennent chez vous dans la journée ?
Ah oui, beaucoup. Maintenant, j'ai des fois, comme demain, j'aurai le kiné. Alors le kiné, le docteur.
L'aide-soignant.
Les infirmiers, et ça fait beaucoup de monde. Le maintien à domicile, oui, d'accord, mais en ce moment, je me demande comment je vais faire, parce que je vais avoir 90 ans quand même. Maintenant, on me déconseille de rentrer au foyer. J'aime bien être à la truc à domicile. Vous avez des personnes qui sont comme celle-ci. Elle est l'idéal pour moi.
C'est gentil, ça fait du bien à entendre.
Je suis accompagnée pas mal, bien sûr, mais ça n'empêche pas que je trouve mes journées longues.
Moi, c'est un métier qui me plaît énormément. J'aime être au contact avec les personnes, que ce soit personnes handicapées, personnes vieillissantes ou les personnes plus jeunes, comme on a eu tout à l'heure. Voilà, je trouve que ça, c'est bien pour le métier, c'est qu'on a beaucoup de personnes complètement différentes. Il y a aussi des inconvénients dans notre métier, parce qu'en fait, on n'a que 10 minutes entre chaque usager, et c'est vrai que selon si on est à pied, si on est à vélo, si on est en voiture, ça change tout. C'est un peu difficile des fois d'arriver pile poil à l'heure, parce qu'on a l'impression d'être toujours stressé de savoir si on va arriver ou pas. Surtout quand on a des changements en fait, de dernière minute, on ne connaît pas les gens, donc si on arrive en retard, ce n'est pas toujours très bien accepté. Et ça se comprend. Mais moi, je trouve ça formidable qu'on puisse maintenant mettre en place tout un tas de choses où les gens sont au domicile. Hein. Ils sont moins perdus et moins perturbés, hein, c'est vrai. Moi, je suis pour le maintien au domicile. Mais à condition que les gens soient bien traités aussi. Je trouve ça hyper important qu'on ait un bien-être en fait, pour les gens et pour nous aussi. Hein.
Donc, je m'appelle Rosane Geffroy et je suis responsable du service autonomie à domicile du Centre communal d'action sociale de la ville de Rennes. Alors le maintien à domicile, c'est très large. Déjà, ça ne concerne pas uniquement des personnes âgées. Nous, dans les personnes qu'on accompagne, on a des personnes handicapées et des personnes âgées. C'est quoi l'accompagnement à domicile ? Ben, c'est mettre en place par la visite de professionnels dans l'intimité et au domicile des personnes, toute mesure qui favorise la vie quotidienne et la facilitation de la vie quotidienne pour les personnes qu'on accompagne. Nous, au niveau du CCAS de Rennes, on a un service d'aide et d'accompagnement à domicile, donc avec des auxiliaires de vie sociale vraiment pour les actes de la vie quotidienne. Et on a un service infirmier d'aide à domicile où là, on a des professions d'infirmiers et d'aide-soignants qui interviennent plus particulièrement sur des situations qui nécessitent des prises en soins ou un regard de soignant. Nous avons décidé de réorganiser nos services et de fonctionner plutôt de manière beaucoup plus intégrée entre l'accompagnement et le soin. On est allé un petit peu au devant de ce que va nous demander le national et le gouvernement, puisqu'on rentre en France dans un virage domiciliaire et à partir au plus tard en 2025, on n'aura plus de SAD et de SIAD, mais partout en France, des services autonomie à domicile qui allieront, du coup, ces différents parcours.
Les personnes qui sont en maintien à domicile, en général, c'est quel profil ?
Nous, dans nos publics, on a des personnes âgées, on a des personnes handicapées, mais pour le coup, les profils, il n'y a pas une seule typologie de profil. Il y a des personnes qui vont avoir des difficultés physiques, Il y a des personnes qui vont avoir des troubles cognitifs. Il y a des personnes qui sont isolées, juste fatiguées et qui ont besoin d'un petit soutien, par exemple, suite à une sortie d'hospitalisation. Je me garderai bien de donner un profil type. Ce qui est certain, et dans un monde idéal, et dans le cadre de la mise en place des services à domicile, c'est que quand on est confronté à des troubles, il faudrait qu'on ait certainement plus de moyens pour prévenir les premiers signes de dépendance et pouvoir intervenir au bon moment pour que les personnes vivent le mieux possible leur vie quotidienne. Moi, ce que je crois et dans ce que je vois, c'est que chacun a envie de rester le plus longtemps possible à domicile dans les meilleures conditions possibles. À partir de là, quelquefois, il faut mettre en place des moyens. Alors, c'est ou des aides humaines, il y a aussi des aménagements de logements, quand c'est nécessaire, des aides techniques également, qui peuvent être très simples. Hein. Quelquefois, on a juste des difficultés à manger, il peut y avoir des couverts adaptés, par exemple. Je pense vraiment qu'il nous faut favoriser au maximum le maintien à domicile. Et puis, à côté, proposer un parcours. Parce que quelquefois, on ne peut plus rester à domicile. Il ne faut pas que ce soit vraiment un non-choix, mais il faut que, également, ce parcours puisse être accompagné pour que ce ne soit pas une césure de vie ou un accident de vie complètement déprimant que le fait de rentrer en établissement. Après, si on avait plus de moyens à domicile, on pourrait, à certains moments, éviter une entrée en EHPAD.
Est-ce que vous avez des personnes qui viennent ici et qui se posent des questions sur leur logement et comment est-ce que vous les accompagnez ?
On a des ergothérapeutes qui sont présents au niveau du service à domicile. On aimerait bien avoir plus de moyens d'ergothérapie parce que c'est un métier qui permet l'évaluation et dans les gestes de la vie quotidienne et dans l'adaptation du logement. À partir du moment où il y a besoin d'adaptation du logement, il y a une évaluation qui est faite et nos services autonomie à domicile, on ne va pas faire directement les préconisations, mais on peut orienter les personnes vers des dispositifs adaptés et puis que ce soit au niveau du service à autonomie à domicile mais aussi de l'ensemble de la population rennaise, on a la maison des aînés et des aidants qui est un centre de ressources au niveau territorial et vers lequel chacun peut aller.
Depuis une quinzaine d'années en France, on voit une politique sociale pour les personnes âgées qui est axée vers le maintien à domicile. Par exemple, selon une étude de la DARES de 2020, le service d'aide à domicile en France, ça représente 1,3 million de salariés. Mmh. C'est aussi accompagné par une augmentation du souhait de vieillir chez soi. Par exemple, d'après l'IFOP, en 2019, il y a 85% des personnes de plus de 60 ans qui préfèrent vieillir chez elles. Le maintien à domicile, c'est donc une grande question pour les problématiques de logement et de bien vieillir. Est-ce que, actuellement, selon vous, il y a des enjeux auxquels vous devez faire face pour permettre de vivre chez soi correctement maintenant ?
Le premier enjeu qu'on a devant nous, c'est le vieillissement de la population. En 2018, c'est les derniers chiffres qu'on a fiables du dernier recensement, on avait 70 000 personnes sur Rennes Métropole qui avaient plus de 65 ans. Donc ça représentait à peu près 16% de la population. Et parmi eux, on en avait 35 000 qui avaient au moins 75 ans. En 2040, ça représentera 104 000 personnes. Donc on va augmenter de 3 à 4% la population des seniors. Les perspectives en 2040, c'est qu'on aura deux fois plus de personnes sur l'aire métropolitaine qui auront plus de 85 ans. Ça veut dire que là, on est en 2023. Le virage domiciliaire, c'est maintenant qu'il se construit dans la lisibilité des dispositifs avec une seule porte d'entrée, comme on a mis en place sur Rennes. Hein. Et puis, ça se construit en termes de moyens. Au jour d'aujourd'hui, les services d'aide à domicile sont souvent déficitaires et difficiles à maintenir. Et du coup, on a beaucoup de systèmes de prestataires privés, mais à but lucratif, mais qui n'ont pas les mêmes enjeux qu'on peut avoir, nous, dans le secteur public ou dans le secteur associatif à but non lucratif. Sauf que les fonds qu'on perçoit, c'est uniquement quand on est face à l'usager. Or, ce qui n'est pas pris en compte, je parlais de missions d'ergothérapeute, par exemple, ben ça, c'est des postes qu'on finance avec certains partenaires hein, qui nous contribuent au financement, mais de manière volontariste. Et du coup, l'aide à domicile de demain, c'est pas uniquement une aide à domicile ou auxiliaire de vie sociale face à un bénéficiaire, c'est la totalité du dispositif, c'est-à-dire les temps de coordination pour parler des situations, les temps de conseils techniques d'ergothérapie, des temps aussi de psychologue, c'est les temps de vie sociale aussi, parce que même dans un secteur urbain comme la ville de Rennes, ben souvent on peut se sentir seul parce qu'on a moins de mobilité. C'est aussi de se dire, on parlait de parcours tout à l'heure, ben pourquoi quand on se sent un peu isolé, on pourrait pas, non pas rentrer dans un EHPAD, mais juste aller manger, ou juste aller faire une animation, ou alors quand on se sent fatigué, aller passer quelques nuits pour être préservé et revenir chez soi sans être hospitalisé. Donc, c'est toute l'énorme montagne qui est devant nous. On est convaincus, en tout cas sur Rennes, que la première base de notre structuration et la première base transversale, elle est là posée sur le virage domiciliaire. Après, il faut qu'on ait les moyens afférents et puis qu'on dise aussi à de jeunes professionnels ou des personnes qui se questionnent à quel point il est formidable aussi de travailler dans ce secteur. Pour l'instant, on a un fonctionnement dans beaucoup de politiques publiques qui fonctionne beaucoup via des appels à projets. On répond à des appels à projets, ce qui nous permet d'expérimenter, de mettre en place de nouvelles actions. Après, tout l'enjeu, c'est de pouvoir pérenniser ces actions quand elles fonctionnent. Il faut que ce soit, quand ça fonctionne, pris en compte dans nos financements. Après, on va avoir cette nouvelle création du service autonomie à domicile. Et on espère que ces temps de coordination, ces métiers supports indispensables au maintien à domicile et à la prévention de la dépendance seront vraiment pris en compte et valorisés dans le cadre éventuellement de conventions pluriannuelles, ce qui nous permet d'avoir un peu de visibilité, de stabiliser notre activité et de pouvoir réfléchir et anticiper à notre horizon, la 2040.
Merci à Odile Garneau, Rosane Geffroy et aux personnes qui m'ont accueilli chez elles pour ce reportage. Pour toute information sur le CCAS, vous pouvez composer ce numéro, le 02 23 62 20 40. C'était le deuxième épisode de notre série Habiter et vieillir à Rennes. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à une pratique peu connue de logement pour les personnes âgées, l'accueil familial.
Boire un petit coup par mode Octaline, c'est un titre extrait de l'album Sainte Saucisse qui est sorti en 2019 sur le label Raté Productions, le deuxième disque de cette musicienne et chanteuse française. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. On passe à l'épisode 3 d'un podcast réalisé en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement et la ville de Rennes au moment de la venue à Rennes du sociologue lillois Clément Rivière. C'était jeudi 8 juin et le sujet est passionnant. Pourquoi les enfants des villes ne jouent-ils plus dans les rues, mais seulement dans des aires de jeux sanctuarisées? Pourquoi ont-ils tant perdu en autonomie ces dernières décennies? L'espace public est-il devenu hostile aux enfants ou les parents surprotecteurs? La ville de Rennes et la Ligue de l'Enseignement ont invité Clément Rivière, sociologue spécialiste de ces questions, pour nous apporter son éclairage dans la continuité des dernières rencontres rennaises de l'éducation qui posaient cette question. La ville à hauteur d'enfant, comment la construire concrètement?
Alors moi je suis sociologue, donc je mène des enquêtes pour essayer de contribuer à une meilleure connaissance du monde social, un peu comme l'astrologue étudie les étoiles ou le biologiste étudie des espèces animales. Et après, il y a maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces connaissances? C'est une autre casquette. On peut éventuellement servir de ressource à des gens qui veulent changer le monde ou en tout cas changer la ville. Et puis on peut aussi éventuellement soi-même s'impliquer dans certaines démarches. Donc moi, à titre personnel, je suis engagé auprès de la mairie de Lille où j'habite dans une démarche qui vise à essayer de rendre Lille plus accueillante pour les enfants. Donc on a créé un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Ville à hauteur d'enfants, qui regroupe régulièrement des acteurs variés de la vie associative et locale autour de thématiques. Donc on a parlé du jeu, on a parlé de la culture, de la mobilité, on va parler bientôt de l'égalité filles-garçons. On peut considérer que c'est important de faire ça pour un ensemble de raisons, mais qui sont des raisons d'ordre là, politique, hein, et non pas nécessairement scientifique. On peut s'inquiéter de la diffusion de l'obésité parmi les enfants. On peut s'inquiéter du fait que leur capacité respiratoire et cardiaque soit en diminution. On peut s'inquiéter éventuellement du temps qui est passé devant les écrans. D'autant que le monde en ligne n'a pas l'air d'être tellement plus sûr pour les enfants que la ville. Et puis, surtout, fondamentalement, il me semble que si on est moins dans les espaces publics les uns et les autres, donc on est plus dans des espaces privés, et d'un point de vue politique, ça pose question. Du point de vue de la capacité qu'on peut avoir à être avec des gens différents de soi, alors différents de soi autant par l'âge que par la religion, que par le métier, le niveau d'éducation, l'origine nationale, etc. Et une idée forte, en fait, des défenseurs de la ville à hauteur d'enfant, c'est que si on la rend plus accessible pour les enfants, on va aussi la rendre plus accessible à d'autres catégories d'habitants, donc notamment les personnes âgées, et les parents. Quand on dit les parents, en fait, on dit beaucoup les femmes, puisque ça reste quand même les femmes qui s'occupent davantage des enfants que les hommes. Les personnes à mobilité réduite. Donc il y a différents leviers d'action. À Lille, on a, comme dans bien d'autres villes, un dispositif que je trouve intéressant, qui est celui de ce qu'on appelle les rues scolaires, donc ce qui consiste à fermer la circulation automobile en fait dans les rues où se trouvent les établissements scolaires le matin et puis le soir au moment des entrées et sorties d'école. Les premiers échos qu'on a sont quand même très positifs, avec des gens qui vont prendre le temps de discuter. Donc sans doute, en fait, ça permet aussi de construire davantage le parvis de l'école encore comme un espace d'échange d'informations, d'échange de services, de rencontres, de discussions. Et on a aussi une piste, alors je crois qu'elle est suivie à Rennes également, qui consiste à s'appuyer sur les commerçants. Les commerces, en fait, c'est des ressources de protection pour les parents. Et puis, par ailleurs aussi, les petits commerces, ils jouent un rôle important dans la prise d'autonomie des enfants, puisque c'est un des premiers espaces où les enfants vont se rendre seuls, en fait. C'est pour faire des petites courses, pour acheter une baguette, pour acheter des bonbons. Donc ça peut paraître complètement banal, mais en fait, s'il n'y a plus de petits commerces, ou s'il y en a moins, ben c'est un des éléments défavorables à la présence des enfants dans les espaces publics, à leur apprentissage de l'autonomie en ville. Penser la ville à hauteur d'enfant, c'est sans doute aussi penser la question environnementale, la question de la pollution atmosphérique, c'est penser la question donc, des relations entre générations. Donc en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, et c'est une des raisons pour lesquelles je consacre du temps et de l'énergie à mon échelle participer à ces débats, c'est que c'est une question fondamentalement politique, alors sur laquelle on peut justement avoir des réponses différentes, mais c'est tout l'objet de ces espaces de discussion. Et sans doute, une des perdantes de cette réflexion, ça sera l'automobile, en fait. Il est clair qu'on ne peut pas imaginer une ville à hauteur d'enfant avec autant d'automobiles et dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Alors moi je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait faire, ça coûterait pas extrêmement cher par ailleurs, ce serait je pense de penser des formes d'ingénierie sociale qui permettraient de mettre en relation davantage les parents entre eux, pouvoir discuter de ce que c'est qu'être un bon parent, parce qu'être un bon parent c'est protéger son enfant tout le temps, ou est-ce qu'au contraire c'est le pousser à l'autonomie tout le temps. En fait, c'est cette tension là qui est au cœur de mon livre. Donc en fait je pense que si on arrive à créer des petites assemblées, ça serait favorable sans doute à recréer de la confiance, puisqu'en fait un des vecteurs de la fréquentation des espaces publics par les enfants, c'est la question de la confiance.
À travers son projet éducatif local, Rennes a l'ambition d'agir pour que chaque jeune puisse réussir et s'épanouir, quel que soit son quartier et son origine sociale. Tous les ans, la ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine proposent des rencontres publiques pour échanger sur l'éducation. Plus d'infos sur metropole.rennes.fr/éducation. L'émission d'information locale touche à sa fin. Avant de vous laisser, comme chaque jour, une recommandation. Direction la librairie Comment Dire, installée dans le centre-ville de Rennes et qui a l'habitude d'organiser de jolies rencontres. Là, ça se passe jeudi 15 juin à 19h avec au programme une discussion en compagnie de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France et artiste associé au Théâtre National de Bretagne. Il a publié récemment « Quand l'histoire fait date » aux éditions du Seuil. Il sera accompagné pour cette rencontre d'un autre historien, Florian Mazel, historien médiéviste et enseignant à l'université Rennes 2, qui a lui dirigé en 2021 la publication de la nouvelle histoire du Moyen-Âge, toujours aux éditions du Seuil. Leur création commune à ces deux historiens, c'est l'Histoire mondiale de la France, je vous laisse deviner la maison d'édition, un livre qui est sorti en 2017. Les deux historiens viendront parler avec le public de leur approche de l'histoire et puis surtout de comment l'écrire aujourd'hui. Entrée libre et gratuite sans réservation. Plus d'infos sur le site librairie Comment dire.fr. La Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.